Cartes et territoires, Dominique Rousset. Nos géographies, Dominique Rousset.
Bonsoir à toutes et à tous. Dans nos géographies ce soir, des parcours de migrants multiples, incessants, hommes, femmes, familles entières de part et d'autre de la planète. Ils sont parfois riches, instruits et sollicités. Ils sont plus souvent en quête d'une vie meilleure, de travail, d'un climat plus clément, de sécurité quand ils fuient un pays en guerre. Ils espèrent s'installer ailleurs ou au contraire revenir chez eux. Ils perdent rarement le contact avec ceux qu'ils ont laissés et ils leur enverront une bonne part de leurs gains. Ces parcours sont difficiles, partout des barrières et des réglementations se dressent et ils sont dangereux, comme le rappellent les drames fréquents au large des côtes du sud de l'Europe ou à la frontière américaine. Dans un monde où la mobilité est considérée comme un facteur essentiel de modernité, la question des migrations demeure un enjeu majeur au XXIe siècle. Un défi à la communauté internationale qui peine à installer une gouvernance mondiale sur le sujet. C'est notre thème ce soir, crise des migrations ou crise de l'accueil. Et bienvenue à nos deux invités. David Lagarde est en ligne avec nous. Je pense qu'il est présent. Bonsoir David Lagarde.
Bonsoir.
Il est là, merci et bienvenue. Géographe, docteur en géographie, chercheur associé CNRS à l'Institut français du Proche-Orient à Amman. Et vous êtes l'auteur d'un très beau travail sur l'exode syrien, sur les parcours des réfugiés. Nous allons en donner des détails avec vous et on fera aussi un détour du côté de la cartographie. En studio avec moi, Catherine Vitol de Vanden, bien connue de tous les...
Bonsoir.
De toutes ceux qui s'intéressent à ces questions de migration. Directeur recherche émérite CNRS également. Vous êtes aux séries à Sciences Po, Centre d'études de recherche internationale. Et vous venez de publier la 6e édition, je crois qu'il en paraît une tous les 2 ou 3 ans, hein, à peu près, de l'Atlas des migrations, de nouvelles solidarités à construire. Et la cartographe qui a travaillé avec vous, de fort belles cartes d'ailleurs, j'aimerais la signaler, Madeleine Benoît-Guyot, cartographe géographe elle aussi. Oui, plusieurs éditions parce que, évidemment, l'actualité bouge. Les événements géopolitiques sont évidemment déterminants dans les questions de migration, Catherine Vitol de Vanden. Et puis, il y a eu la pandémie de Covid dont on peut aussi parler. C'est donc un champ, celui des migrations, en constante évolution. Un chiffre peut-être pour bien fixer les choses. Nous sommes 7,7 milliards d'habitants aujourd'hui. 1 milliard d'habitants sur cette planète sont en situation de mobilité. Je précise qu'il s'agisse de mobilité interne, de migration interne, de loin les principales, hein, 75% des cas, ce qu'on oublie souvent, ou international, 25%, ce qui représente quand même, bien sûr, beaucoup de monde. Et ceci concerne quasiment toutes les régions, qu'il s'agisse bien sûr de l'Europe, on va en parler largement, du Proche et Moyen-Orient, mais beaucoup plus loin, de l'Amérique latine, voire de l'Australie, on va parcourir avec vous deux, David Lagarde et vous-même. Une définition peut-être des migrations, Catherine Vitol, David Lagarde. En quoi distingue-t-on le migrant international déjà du migrant interne? Bon, en termes de nombre, on vient de le dire, mais il y a de très nombreuses catégories de migrants. Que dit l'Organisation internationale des migrations?
Alors en fait, il y a des quantités de classifications possibles des migrants. La définition des Nations Unies qui sert de comptage pour l'ensemble des migrations, c'est quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays que le sien, pour une durée égale ou supérieure à 1 an. Donc en fait, la migration, c'est l'idée du déplacement géographique. Alors que l'étranger, c'est un non national, c'est une définition juridique, mais à l'intérieur de ces 272 millions de migrants internationaux qui ont donc traversé une frontière, eh bien, on a des quantités de catégories qui sont notamment les travailleurs. À l'échelle mondiale, ce sont les travailleurs qui sont les plus nombreux, pas en Europe, mais le regroupement familial, les réfugiés. On oppose à tort les réfugiés et les migrants. Les réfugiés sont des migrants forcés, mais ce sont des migrants. Les autres sont considérés comme volontaires. On a des étudiants, des qualifiés. On a des quantités de catégories, les mineurs isolés non accompagnés. On a aussi beaucoup de sans-papiers, etc. Mais l'OIM distingue 7 catégories de migrants internationaux. On pourrait en ajouter des quantités selon que l'on prend l'âge, le sexe, le caractère volontaire ou forcé de la migration et toute une série d'autres catégories.
Le moment de dire peut-être qu'il y a énormément de femmes, hein, je crois.
Voilà, il y a 46% de femmes à l'échelle mondiale.
C'est très important.
Et elles sont 51% pour l'Europe.
Et souvent accompagnées d'enfants. Vous avez parlé d'étrangers non nationaux, la distinction entre le migrant et l'étranger.
Oui. Hein.
Ça, c'est la définition de l'Organisation de coopération et de développement économique.
Oui, de l'OCDE aussi, qui fait un double comptage. Parce qu'en France, comme dans les pays européens, on a plutôt tendance à compter les étrangers par rapport aux nationaux, alors qu'à l'échelle mondiale, on compte plutôt les migrants, les foreign-born, comme disent les Américains, par rapport aux autres. Et dans les pays où on acquiert rapidement la nationalité, ce qui permet de comptabiliser le migrant, c'est précisément celui qui est né étranger, qui est né à l'étranger. Alors qu'à l'échelle européenne, on compte plutôt les étrangers.
Encore deux petites précisions, les statistiques du Haut Commissariat aux réfugiés, cette fois-ci, ils sont dans le monde 80 millions cette année, 2021, et là encore, réfugiés statutaires. Hein,
26,5 millions seulement.
Bravo, c'est le chiffre que j'ai. Et ceux qui sont candidats à l'asile, on va y revenir, les demandeurs d'asile qui évidemment sont également très nombreux. Et le dernier point à connaître avant d'engager notre discussion, les déplacés environnementaux, les déplacés ne sont pas ou pas encore considérés comme des réfugiés.
Non, parce que c'est pas une, il y a pas de notion de persécution.
Ceux qui partent à cause du climat, hein, climat défavorable.
À cause du climat, mais ils sont une cinquantaine de millions dans le monde, surtout pour les trois quarts des migrants internes dans leur propre pays. Ce sont souvent les plus pauvres et ceux qui traversent les frontières en général ne vont pas très loin.
David Lagarde, sur ces définitions que vous connaissez bien sûr, que peut-on ajouter des catégories juridiques en fait, hein, qui sont souvent un peu dépassées par la réalité.
Oui, tout à fait. Retrouve. Quand on s'intéresse au parcours des personnes en migration, on voit très bien que. Je suis désolé, j'ai un énorme retour dans mon micro.
Ah, nous allons essayer de le corriger. C'est très désagréable, sûrement pour vous. Poursuivez.
Oui, quand on s'intéresse au parcours des personnes en migration, on voit que souvent elles sont amenées à passer d'une catégorie à une autre en fonction des contextes, des pays qu'elles sont amenées à traverser. Donc, on a différentes catégories et puis des personnes qui passent d'une catégorie à une autre et qui se retrouvent du coup placées dans des situations plus ou moins compliquées. En fonction du contexte dans lequel elles sont plongées. Et ça a dit aussi des choses sur les difficultés de comptabiliser ces populations migrantes. On a évoqué beaucoup de chiffres et on voit qu'en fonction des catégories, les personnes sont pas classées sont pas comptabilisées de la même manière. Donc ça ajoute de la difficulté en fait à ce comptage d'une population qui par définition est de toute façon un peu difficile à comptabiliser puisque on parle de population en mouvement.
Et par définition. Exactement, très, très mobile. Quelques exemples, effectivement, de ces glissements d'une catégorie à l'autre. Des femmes entrées dans le cadre du regroupement familial et qui se retrouvent du fait de l'abandon, par exemple, par leur conjoint, leur compagnon.
Sans papier,
sans base légale. Ou des enfants entrés avec les parents, donc mineurs, isolés, mais devenus majeurs, qui perdent également le droit à la protection.
Ils deviennent sans papier.
Deux exemples parmi d'autres, des étudiants aussi qui souhaitent rester sur le territoire après avoir terminé leurs études. On va revenir sur toutes les réglementations, donc on a parlé aussi du cas des déplacés environnementaux. Un autre mouvement de fond, et pour rester sur une actualité plus proche, et on va se rapprocher bien sûr de ce qui s'est passé en Syrie, c'est la mondialisation des migrations.
Hein.
On a peut-être tendance à la situer dans certaines régions. Catherine Vitol ou David Lagarde.
C'est un phénomène qui s'est beaucoup développé depuis les années 1990, parce qu'il y a eu plusieurs phénomènes, concomitants. D'une part, la chute du rideau de fer. Donc ça a permis à des tas de gens qui étaient maintenus derrière des frontières étanches de sortir de chez eux. Et on l'a vu, notamment beaucoup de gens des pays de l'Est qui commençaient à circuler en Europe, parfois pour y travailler. La Chine aussi, qui a permis la sortie de son territoire. Donc, ça correspond à une très grande masse de population. Et beaucoup de pays du Sud qui, pendant longtemps, gardaient leur population derrière des frontières fermées avec un difficile accès aux passeports, qui ont compris qu'ils avaient plutôt intérêt, surtout si c'était pas des régimes démocratiques, à faire circuler leur population que de les garder enfermés chez eux. Donc ça a créé une sorte de droit à la mobilité, le droit de sortie, si j'ose dire, à l'échelle mondiale, pendant qu'en même temps, le droit d'entrée est devenu de plus en plus difficile, puisque la plupart des pays d'accueil ont imposé des visas. Donc c'est ça la crise migratoire, en fait. C'est le paradoxe entre un droit de sortie qui s'est quasiment généralisé dans le monde. Il y avait encore Cuba, maintenant on peut sortir de Cuba. Il ne reste plus que la Corée du Nord, d'où on sort très difficilement. Mais en revanche, le droit d'entrée quelque part est devenu très difficile à cause des visas. Il ne faut pas oublier que les 2/3 de la population du monde ne peuvent pas circuler librement, sont astreints à des visas. Donc ça, c'est une très grande inégalité face au droit à la mobilité. Alors que si on regarde le monde d'il y a 100 ans...
En clair, on circule très facilement dans l'hémisphère nord.
Voilà, si on a des bons passeports. Voilà. Voilà. Mais au sud, c'est beaucoup
Il faut des visas au sud.
Voilà. Et donc, il y a 100 ans, c'était l'inverse. Il y avait beaucoup de pays qui maintenaient leur population dans leur territoire parce que c'était une richesse, la population, une richesse agricole, une richesse fiscale, une richesse militaire aussi, alors qu'il était assez facile d'entrer quelque part. On était même parfois accueillis à bras ouverts dans les pays qui voulaient se peupler, qui voulaient de la main d'œuvre, etc. Donc, on est passé d'une difficulté de sortie de chez soi à une difficulté d'entrer quelque part aujourd'hui.
Oui. Et puis, il y a la situation politique, les crises politiques d'abord dans les pays eux-mêmes. On peut parler des pays européens. Il y a eu quand même quelques gouvernements. Salvini en Italie, 1918. La question du Brexit aussi. Qui a été compliquée, notamment pour des pays. Alors là, je parle de pays d'Est de l'Europe, Hongrie ou Pologne. Donc, sur fond de rejet de l'immigration, là encore. Et bien sûr, à l'échelle mondiale, des conflits récurrents. Et ce qui nous amène effectivement à cette crise des réfugiés en Syrie, commencée en 2011. David Lagarde, je voudrais vraiment reparler de cette thèse que vous avez faite, qui porte sur les routes de l'exil syrien, sur l'influence de ces migrations, antérieures d'ailleurs au conflit, et ce qu'elles sont devenues après l'éclatement du conflit, ce qui nous emmène à l'année 2015, qui a été quand même un tournant européen, David Lagarde. C'est de là que vous êtes parti, hein, pour votre thèse.
Tout à fait, ça fait un peu écho à ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure sur les catégories migratoires, c'est que moi je me suis intéressé en fait à ces déplacements de population sur le temps long, et j'ai essayé de voir comment est-ce que les mobilités à l'échelle régionale au Proche-Orient, la mobilité des Syriens avant le début du conflit pouvait influencer en fait les parcours d'exil des personnes qui ont été contraintes de fuir après 2011. Et on voit que les raisons de ces départs sont multiples. Alors à chaque fois, le dénominateur commun c'est le déclenchement du conflit, mais c'est pas forcément le fait de fuir des conflits. Le conflit, ça peut être aussi la crise économique générée par le conflit qui contraint en fait certaines familles à partir tout simplement pour essayer de continuer à avoir les moyens économiques de survivre. Donc encore une fois, on voit qu'il y a un mélange des catégories, et que c'est, comme Catherine Vitold de Venden le disait tout à l'heure, c'est contre-productif en tout cas, et erroné de toujours opposer les différentes catégories de migrants, notamment les migrants et les réfugiés.
Alors, l'originalité de votre travail, et j'y insiste parce que là, on vient de donner beaucoup de chiffres, effectivement, beaucoup de numéros. Évidemment, ce sont des personnes dont nous parlons là. Et ce que vous avez choisi de faire, c'est de partir d'un village, pardonnez-moi la prononciation, vous allez me corriger, Derm Karen, un village syrien, donc situé entre Damas et la frontière libanaise. Et vous êtes parti des récits de vie des réfugiés, de leur parcours migratoire vers la Jordanie, puis vers l'Allemagne, enfin, évidemment, en visant l'Europe. Et en fonction de leur date de départ de ce village, leurs trajectoires ont été complètement différentes, ce qui d'une certaine manière illustre bien les difficultés que rencontrent les migrants.
Oui, tout à fait. Mais moi, en fait, pour resituer un peu le contexte de ma thèse, je l'ai commencé en 2013. Donc, c'était un moment où l'exode syrien était un petit peu un tournant de son histoire, si je puis dire. Parce qu'on assistait vraiment à une intensification des combats en Syrie. Et donc, à une augmentation des arrivées de réfugiés dans les pays limitrophes. Et moi, j'ai décidé de travailler en Jordanie. Et j'étais un peu, enfin, il y avait un matraquage de chiffres, des rapports d'organisations internationales, d'ONG, qui étaient publiés très régulièrement et qui axaient leurs propos sur toujours sur ces chiffres et les centaines de milliers de personnes qui fuyaient les combats. Et moi, en fait, j'ai pris le parti de réduire un petit peu la focale d'observation pour passer de l'observation de ce phénomène de masse pour voir un petit peu comment fonctionnaient de l'intérieur ces flux de réfugiés et qu'est-ce qui a influencé le parcours des migrants, pourquoi est-ce que ils décidaient de se rendre dans un pays plutôt qu'un autre, et à l'intérieur de ce pays pourquoi dans une ville en particulier, et puis quelle route ils empruntent pour s'y rendre, pourquoi ils passent par des lieux de transit spécifiques. Et c'est pour ça que j'ai une approche de la géographie qui est très ethnographique. Et j'ai eu envie de partir en fait de l'observation de la population d'un village, donc d'Ermkaren en particulier, comme vous le disiez tout à l'heure, et de voir comment est-ce que au fur et à mesure de l'exode, en fait, ces parcours étaient susceptibles d'évoluer. Ces routes, enfin les routes empruntées par les réfugiés qui partaient d'un même village, étaient susceptibles d'évoluer, y compris pour se rendre dans le même pays.
Oui. Trois personnes, Hamza.
On observe. Pardon. À partir de l'étude de cas que j'ai faite sur les passages entre la Syrie et la Jordanie, c'est que plus les politiques et les mesures prises à l'encontre de l'entrée des demandeurs d'asile syriens en Jordanie se durcissent du côté jordanien, et plus les routes empruntées par les réfugiés syriens deviennent complexes, dangereuses, ce qui pousse aussi les réfugiés à partir de 2015, quand 2014-2015, quand les autorités jordaniennes considèrent que elles ont atteint leur quota maximum de leur capacité d'absorption maximale de réfugiés, là elles ferment complètement leurs frontières, ce qui contraint les réfugiés à faire appel aux services de passeurs pour entrer en Jordanie par des points de passage par lesquels il est encore possible de rentrer au compte-gouttes.
Et bien sûr, plus périlleux.
Des routes, voilà, de plus en plus, oui. De plus en plus dangereuses. Et ce qu'on voit,
deux exemples, pardon, Hamza, Hamza qui a pu donc partir assez vite en l'espace de quelques heures quand il a décidé. C'est un homme. Sa famille, en revanche, sa femme, Ala, qui est partie avec leurs enfants, parti 6 mois plus tard, de manière beaucoup plus compliquée, a dû avoir recours aux passeurs. Et vous citez également Yasmine. C'est aussi une femme qui est partie avec ses enfants en octobre 2014, et pour elle, alors des points de passage informels, la construction d'un mur entre les deux pays, un itinéraire clandestin dangereux et beaucoup plus long, et en tout pas loin de 2 ou 3 mois, je crois, pour rejoindre son époux à travers le désert de Syrie. Catherine Vitol de Vanette, c'est intéressant de prendre ces cas qui illustrent bien l'accueil, enfin la manière dont on parle ici quand même d'un pays où les citoyens sont en grande difficulté.
C'est un des plus grands exodes récents que nous ayons connus, puisqu'il y a près de 5 millions de Syriens qui ont quitté leur pays, donc, et 7 millions environ qui sont des migrants internes en Syrie. Donc 12 millions de personnes ont bougé depuis les années 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est colossal, si j'ose dire. La seule concurrence qu'on peut voir en termes de chiffres, c'est l'exil, dont on parle moins, des Vénézuéliens. Aujourd'hui, on a près de 5 millions de Vénézuéliens, même un peu plus, qui ont quitté le Venezuela pour aller vers la Colombie ou le Brésil. C'est aussi colossal que l'exil syrien, effectivement.
Oui, donc l'ampleur de l'exode, plus de 3 millions en juin, hein, qui ont été enregistrés par le HCR. Et où vont-ils aller et pourquoi arrivons-nous à cette situation en 2015 où l'Union européenne, qui en a accueilli une petite part, je le précise, puisque les grands pays vers lesquels ils se dirigent, on a parlé de la Jordanie, David Lagarde.
La Turquie, quand même.
La Turquie, bien sûr, l'Irak. L'Irak et le Liban, qui a accueilli une population très importante par rapport à sa propre...
Autant que l'Europe tout entière, puisqu'il y a eu 1 million de Syriens réfugiés au Liban, et l'Europe en 2015 a eu 1,2 million de réfugiés syriens. Donc l'Europe a hurlé sur l'invasion, mais en fait le Liban, c'est presque le cinquième de sa population qu'elle a reçue.
On va revenir justement sur cette représentation européenne de l'exil syrien. Auparavant, c'est vous qui nous le conseillez, David Lagarde, et je crois que vous les connaissez, un groupe de rap syrien, il s'appelle Haram.
بدي حريتي كاتبنا بالألم بس للأسف ما عم لاقي غير الألم طفولة شردت بيوت عم تنهدم حرام حرام الناس غرقت بالهموم الشمس ما عم طلعت سما كلها غيوم ريحة البارود وصلت للنجوم حرام حرام
بارود أصوات من المآذن رجعوا على البيوت قذائف عم تنهال على الحارات مثل المطر حسيت بالخوف أكتر حسيت بمعنى الخطر كملت طريقي والمتعة بيقرب أكتر وأكتر أصوات الناس عم بتقول الله أكبر شفت الحارة الحارة صار لونها أحمر ريحة الدم والأشلاء قدامي عم تتبعثر ركض لحتى ساعد رفيقي كان جريح المشافي بده دم.
Dans nos géographies ce soir, nous parlons des migrations internationales en compagnie Catherine Vitol de Vanden qui suit ce thème depuis de plusieurs années, notamment à Sciences Po et qui vient de faire paraître une nouvelle édition de l'Atlas des migrations et de David Lagarde qui a regardé de très près, en changeant un peu la focale comme il nous le dit, le cas de réfugiés syriens qui est un très, très important et très intéressant. Juste un mot David Lagarde sur ce groupe de rap.
Oui, bah c'est des personnes que j'ai rencontrées en fait en 2011 en Syrie, à Damas, quand je faisais un stage de cartographie justement là-bas, ça permet de faire la transition. Et en fait, ils sont originaires du camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, qui se trouve dans la banlieue de Damas. Et ils ont fui ce camp en 2013 quand il a été pris pour cible par les bombardements du régime. Et ils habitent désormais en France. Donc ils ont eu la chance d'obtenir des visas et de pouvoir voyager. Légalement jusqu'en Europe, jusqu'à Paris. Et voilà, depuis 2013, ils habitent à Paris et continuent leurs activités de rap, notamment.
Très bien. Et vous faites bien de parler de cartographie. C'était précisément ce que je voulais qu'on décline avec vous deux. La cartographie qui a joué un rôle très important, en réalité, dans le traitement de cet épisode. Vous dites que on a beaucoup parlé de vagues importantes, etc. Et la carte le montrait, hein. Vous êtes d'accord là-dessus, l'un et l'autre. Catherine Vitol d'abord, puis David.
Bah déjà, aujourd'hui, la carte, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on cartographiait très, très peu. Et aujourd'hui, je me suis aperçue que c'était, notamment pour le sujet des migrations, un moyen de connaissance de plus en plus utilisé. J'ai participé à un groupe de travail aussi sur l'Atlas des migrations en Méditerranée de l'Antiquité à nos jours. Alors, je me suis demandé comment on pouvait représenter les choses. Finalement, l'Atlas est sorti et donc, c'est un très beau livre. Et il y a beaucoup d'autres collègues qui font aussi des cartographies des migrations, des atlas des migrations. Donc, c'est un moyen de connaissance du phénomène qui s'est considérablement développé depuis ces dernières années, effectivement.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, David Lagarde, avec le cas de la Syrie, les quelques cartes que vous avez pu observer ? Alors, ce n'est pas toujours dans une intention malicieuse, mais parfois.
Non, pas du tout. Non, effectivement, mais en tout cas, depuis 2015, est-ce qu'on a appelé de manière un petit peu abusive la crise des migrants en Europe ? Effectivement, on a assisté à la publication d'énormément de cartes hein, dans les médias, dans des rapports d'experts sur les migrations de la Syrie et puis la Syrie en fait principalement vers l'Europe et c'est là où la carte peut poser un petit peu problème, c'est quand elle focalise son attention sur l'Europe dans le cas des Syriens alors que les déplacements de réfugiés syriens se font de très loin vers les pays limitrophes au Moyen-Orient hein, puisqu'on a, pour reparler chiffres un petit peu, au total, il y a 5,6 millions de réfugiés syriens dans le monde et 4,6 millions sont accueillis dans les pays limitrophes du Moyen-Orient.
Oui, ça en dit long. Mais alors sur la carte, c'est très intéressant parce que vous nous dites, vous citez notamment une carte, je crois que je peux le dire, hein, qui s'appelle la Marée des réfugiés, intitulée de cette manière, d'un journaliste qui a obtenu plusieurs prix d'ailleurs de data journalisme, qui s'appelle Alberto Lucas Lopez, et qui représente donc la carte, mais effectivement à l'intention des Européens quelque part. Donc pour des raisons de lisibilité, je cite, c'est ce qu'il nous dit sur la légende, l'échelle des flux vers l'Europe a été multipliée par 24. en comparaison de ceux vers le Moyen-Orient. Très bien, sauf que l'épaisseur du trait qui symbolise les déplacements vers l'Europe donne une lecture effectivement très très biaisée et qui donne l'impression, alors d'après les données qu'on a utilisées, quand on connaît les chiffres que vous venez de citer, il semble que vraiment l'Europe fait preuve de beaucoup plus de générosité que la Jordanie par exemple, pays où résident près de 600 000 exilés alors que nous en aurions reçu Europe, toute l'Europe, 0,045% de la population totale. C'est assez, oui, c'est assez frappant quand même.
La carte a un pouvoir très puissant. Enfin, l'esthétique des cartes, c'est-à-dire qu'une belle carte, ça parle et c'est souvent un moyen très efficace de retenir l'attention de son lectorat. Et là, en l'occurrence, on peut voir qu'en créant parfois des cartes esthétiques, finalement, elles peuvent avoir un effet inverse que celui escompté à l'origine, puisque a priori, Alberto Lucas Lopez, qui est un data journaliste très talentueux, il est animé par de bonnes intentions, hein, puisque il l'affirme lui-même, il souhaite sensibiliser l'opinion publique sur le sort des réfugiés. Mais effectivement, quand on joue de manière un petit peu hasardeuse avec les codes de la cartographie, bah, au final, le message qu'on souhaite délivrer, il peut être tout à fait à l'inverse de la réalité de la situation.
Oui, vous pointez aussi, nous en avions déjà parlé dans cette émission d'ailleurs, le graphique qui accompagne souvent la carte, qui renforce cette ambiguïté avec les couleurs. Prédominance de la couleur bleue ou de la couleur rouge pour faire référence à cette marée un peu inquiétante. Le choix des couleurs n'est jamais neutre, évidemment. Associé un peu au danger dans un imaginaire collectif. Ça, là, je parle des cartes que publie Frontex, l'agence de surveillance des frontières.
Oui, ils sont un peu spécialistes, si je peux me permettre, de ce genre de pratique un peu scrupuleuse, peu regardante de la cartographie des migrations. Et là, à l'inverse de l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, les cartes produites par les cartographes de l'agence Frontex, elles ont clairement une visée politique, quoi. C'est-à-dire que le message qu'on souhaite délivrer, il vise à servir les intérêts de l'agence Frontex et aussi à justifier un petit peu ces opérations. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, en utilisant des couleurs rouges, des flèches très très épaisses pour certaines qui pointent toutes vers l'Union européenne, pour représenter les flux de migrants, et puis certaines qui recouvrent une grande partie de l'Europe. Là, effectivement, on joue sur les émotions du lecteur et des lectrices. Et l'objectif, oui, c'est de créer une angoisse et de au sein de l'opinion publique, ouais. et justifier les...
Bien sûr, la cartographie comme outil de propagande, hein, c'était pas forcément envisagé par tout le monde. On a le moyen de réfléchir à une perspective cartographique un peu différente sur les mouvements migratoires, Catherine Vitol-Grenden.
Il y a beaucoup de... Maintenant, il y a toute une série de réflexions, de débats, de colloques. Moi-même, j'ai fait un petit colloque à Rome. Fin 2019 sur cartographier les migrations, point d'interrogation, voir ce que ça pouvait signifier avec des gens qui avaient fait des cartes, des graphiques, dont Hervé Lebras, Philippe Rekassievitch, etc. Effectivement, ils montraient les biais de la cartographie. D'abord, le fait que on représente les événements soit avec des aplats, donc dans ce cas-là, on va montrer des densités, etc., ou alors des flèches. Mais alors, les flèches, comme on le disait tout à l'heure, ça suggère un peu l'invasion, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tous ces gens qui viennent se dirigent vers l'Europe, alors qu'ils se dirigent, comme ça a été dit, vers beaucoup d'autres destinations. Donc, comme souvent on représente ce qui nous intéresse, eh bien, on a énormément de cartographies montrant les migrants qui se dirigent vers l'Europe avec ces flèches qui, en réalité, sont très, très épaisses par rapport à l'importance des flux migratoires qui arrivent en Europe. Donc là, il y a un risque de biais très important parce que c'est l'idée un peu de l'invasion, de la guerre, de la conquête, etc. Pour les gens qui dénoncent l'idée fausse du grand remplacement, eh bien là, ils ont tout à fait les arguments pour dire, voilà, ils y arrivent tous, ils vont nous submerger, etc. Avec un vocabulaire marin, comme ça a été dit, on parle de flux, de
marée.
Une série de marées, de phénomènes qui suppose finalement une sorte de mer qui arriverait comme ça vers l'Europe, ce qui correspond pas du tout à la réalité aujourd'hui.
Les mots ne sont
n'est pas très importante.
Les mots ne sont pas neutres et les coups de crayon non plus apparemment. Les objectifs du millénaire pour le développement, c'est intéressant. Je l'ai appris en vous lisant, Catherine Vitol. On s'en souvient, par l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était en 2000. Bizarrement, ne traitait pas des migrations. En revanche, et là, nous sommes sur les retombées effectivement de cet exode syrien. En novembre 2015, les chefs d'État et de gouvernement européens ont tenté de coordonner, même internationaux, ont tenté de coordonner leur politique. C'était une première tentative avec cette déclaration adoptée par les Nations Unies en 2016, déclaration de New York sur les réfugiés et les migrants, la première. C'est une date importante.
Tout à fait, parce qu'avant, il n'y avait jamais eu de conférence internationale onusienne sur les migrants. Il y en avait eu sur les femmes, il y en avait eu sur la population, sur les discriminations, mais jamais sur les migrations, parce que c'était un sujet qui fâche, comme on dit. Donc, très souvent, c'était un peu évité dans les grandes rencontres onusiennes. Et il a fallu la crise syrienne de 2015 pour qu'enfin, à l'Assemblée générale des Nations Unies, à son initiative, on commence à parler, mettre sur la table la question des migrations, de la gestion des migrations. Et ça a donné lieu en 2018 au fameux pacte de Marrakech, ce qu'on appelle le pacte global. Il y en a un sur les réfugiés, un sur les migrants, avec des objectifs qui sont définis, 23 pour les migrations et 5 pour les réfugiés, suivis l'un par l'Assemblée générale des Nations Unies pour les migrants, l'autre par le HCR pour les réfugiés. Donc là, vraiment, il y a une sorte d'inscription dans l'agenda international global de la question des migrations. Et le sous-titre, c'est pour une immigration sûre, ordonnée et régulière. Quand on voit la scène mondiale aujourd'hui, on se dit qu'on n'y est pas encore, si j'ose dire. Mais c'est l'objectif du pacte mondial qui a été adopté par 169 États. Donc, c'est quand même assez important.
C'est un premier pas qui vous paraît important.
Tout à fait. Oui,
on va revenir quand même sur ce qui se prépare encore sur l'avenir. Quelles sont les raisons? Alors, on a donné des raisons politiques, environnementales. Il y a aussi dans cette urbanisation, dans cette mondialisation des migrations, une urbanisation galopante, justement, une attraction très forte de la ville.
Tout à fait.
Les éléments que vous soulignez,
oui, parce que,
et ça c'est évidemment partout dans le monde.
Oui, c'est vrai, parce que dans le passé, beaucoup de migrants, notamment dans les pays d'immigration de peuplement, comme toute l'Amérique du Sud, les États-Unis, le Canada, etc., et même d'autres destinations, ce qui attirait beaucoup de paysans, c'était la terre. Donc les espaces vides attirait beaucoup en réalité, alors que aujourd'hui c'est pas la terre et c'est pas le vide n'attire plus. Ce qui attire, c'est précisément les grandes métropoles, les grandes mégapoles du monde, parce qu'elles sont riches de quantité d'opportunités d'emploi, d'animation de réseaux que les gens connaissent déjà à travers leurs compatriotes qui sont partis dans tel ou tel endroit. Donc aujourd'hui, c'est plutôt les grandes mégapoles du monde que l'on quitte, mais aussi que l'on va retrouver à travers la migration. Il y a d'autres facteurs lourds, structurels de la migration. Pourquoi on n'arrêtera pas les migrations, contrairement à ce qui se dit dans certains débats politiciens, si j'ose dire. Ça correspond à une tendance lourde du monde. Aujourd'hui, la démographie, les inégalités du développement humain, les crises politiques qui produisent des réfugiés, les questions environnementales, l'urbanisation galopante de la planète, la jeunesse du Sud par rapport à celle du Nord, du monde, tous ces facteurs, les réseaux transnationaux, les médias qui donnent à voir un monde rêvé pour tous ceux qui veulent partir de chez eux, tous ces facteurs sont structurels et expliquent l'entrée en mobilité croissante du monde.
David Lagarde, sur ce point, vous travaillez, je crois, maintenant beaucoup sur les pays africains aussi. Vous entendez, David Lagarde?
Oui, je vous entends.
Il est là.
Allô?
Oui, on vous entend, allez-y.
J'ajouterais juste là sur la question des parcours migratoires. Effectivement, les villes sont aussi des espaces relais importants. Enfin, dans les parcours, on voit que les personnes qui passent par les villes, en fait, ils passent aussi pour toutes les raisons évoquées par Catherine, et aussi collecter des informations, des ressources qui leur permettent d'élaborer la suite de leur projet migratoire et envisager de se projeter ensuite vers d'autres destinations.
Oui, 3,2 milliards, je crois, aujourd'hui vivent en milieu urbain, mais on en prévoit quasiment le double. Demain, c'est quand le milieu du siècle, je crois, on dit plus de 50%, je crois même près de 70% des humains habiteraient en ville, avec des risques accrus, bien sûr, de bidonvilles en périphérie, de difficultés, mais aussi des aspirations à mieux vivre et sans doute des progrès dans l'éducation, dans la santé. Catherine Vitol de Vandenne, parlons un peu des aspects très positifs, quand même, alors, de ces mouvements.
Tout à fait. Alors déjà, les transferts de fonds. Les transferts de fonds, c'est 530 milliards de dollars annuels en 2019. Il y a une chute de 20% avec la crise du Covid, mais c'est quand même plus que trois fois l'aide publique au développement. Donc les migrants sont des contributeurs nets au développement économique et humain de leur lieu d'origine. Ça peut être leur village, leur région, etc. Donc les transferts de fonds. Souvent, ils ont des salaires très supérieurs quand ils partent comparativement à ce qu'ils avaient chez eux. Donc il y avait une étude qui avait été faite par l'université de Harvard qui montrait qu'ils multipliaient par 7 leurs gains en partant de chez eux par rapport à, et en allant à l'étranger par rapport à ceux qui restaient sur place. Donc déjà là aussi c'est un gain économique très très net. Et il y a aussi pour beaucoup l'aspiration à la liberté, c'est très important dans des pays, notamment pour les femmes, mais pas seulement, alors qu'ils quittent des pays parfois complètement enfermés dans leur vie politique et dans leur culture très étriquée. Donc ça aussi c'est un gain très important. Et puis les migrants, ils ont souvent des retombées pour les pays de départ. Beaucoup qui ont quitté leur pays réinvestissent des activités dans leur pays de départ. Par exemple, beaucoup d'Indiens qui sont des médecins, par exemple au Royaume-Uni et aux États-Unis, créent des laboratoires d'analyse médicale en Inde. Comme ça, ça permet, avec le décalage horaire et l'utilisation de l'anglais, de pouvoir lire tout ce qui a été fait comme radio, et d'opérer le lendemain, si nécessité, à un coût moindre, par exemple. Il y a beaucoup d'autres activités. Les Chinois ont considérablement développé dans leur région de départ une économie très très prospère à cause de leur migration. Mais c'est vrai aussi ailleurs dans le monde, et les pays de départ ont compris qu'ils avaient intérêt à faciliter les investissements de leurs migrants s'ils voulaient réinvestir dans leur propre pays, même s'ils n'y retourneront pas vraisemblablement.
Un point très important, quand un pays est très pauvre, ce n'est pas là qu'on trouve le taux d'émigration le plus important.
Absolument.
Là, c'est peut-être une idée reçue, ce ne sont pas les plus pauvres qui
jamais
partent.
Jamais. Jamais.
Vous le confirmez aussi, absolument, David Lagarde, hein, pour les Syriens, mais je vous en prie, Catherine Vitol.
Tout à fait, parce qu'en fait, pour partir à l'étranger, surtout, il faut des ressources. Donc les plus pauvres, ce sont les déplacés environnementaux ou certains réfugiés qui sont poussés hors de chez eux par des crises très graves, la guerre en général. Alors que pour être migrant volontaire, si j'ose dire, il faut déjà de l'argent, surtout si on n'a pas de visa. Il faut payer des passeurs, parfois c'est des prix très très élevé. Il faut avoir des réseaux de connaissances à l'étranger pour accomplir son voyage, parler une langue qui soit parlée pas seulement chez soi mais à l'extérieur, être informé de là où on va, avoir un vrai projet professionnel, un projet migratoire, et il y a une sorte de mise en en indésirabilité des gens que l'on accueille très très mal, mais souvent ce sont des gens qui ont des projets très très précis, qui sont de plus en plus scolarisés et qui ont été capables de faire des voyages très complexes dans la clandestinité, qui sont les entrepreneurs un peu de leur propre vie et de leur propre projet à travers la migration.
Ouais. David Lagarde, qui sont les Syriens, pour revenir vers eux, qui sont partis les premiers, après bien sûr poussés par la guerre, comme l'a dit Catherine Vitol, mais on retrouve ces caractéristiques dont elle nous parle?
Ah oui, tout à fait, oui. Effectivement, elle a parlé des réfugiés avec le moins de ressources. C'est des personnes qu'on retrouve dans les camps de réfugiés, par exemple le camp de Zaatari, où j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de terrain, et c'est des personnes qui ont peu de ressources économiques et qui généralement viennent d'assez près, en fait, juste de l'autre côté de la frontière, côté syrien. Elles passent la frontière, elles sont ensuite dirigées vers des camps de réfugiés. Et puis si on s'intéresse aussi même à l'échelle du petit village d'Erm Karen, sur lequel j'ai travaillé plus en détail. Et ben, effectivement, en fonction niveau d'éducation des personnes ou des revenus de l'argent qu'ils avaient pu économiser avant le début du conflit, et ben on voit que les trajectoires d'exil ne sont pas les mêmes. Et généralement, c'est bien sûr les personnes les plus éduquées qui disposent de le plus de revenus qui vont le plus loin géographiquement parlant, quoi, qui arrivent à payer, comme l'a dit Catherine, un voyage qui coûte cher jusqu'en Europe.
Bien sûr.
Voilà.
On écoute un air très connu, Manu Chao. Vous l'avez choisi, Catherine Vittol. Et pour cause,
les sans-papiers.
Clandestino.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal.
On parle de migration internationale dans nos géographies ce soir, migration sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, une mondialisation des migrations, nous dit Catherine Vittol de Vinden, une de mes invitées, avec David Lagarde, qui a fait un travail un peu plus précis sur la Syrie, mais qui travaille aussi, je crois, sur les pays africains. On a beaucoup de confusion sémantique même. Hein, question pour vous deux. Ici, on vient d'entendre parler des sans-papiers, c'est le papel, c'était très audible. Le sans-papier, le demandeur d'asile, il y a pas mal de confusion sur tout cela, Catherine Vittol ou David Lagarde.
Alors aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que beaucoup de gens ne parlent plus tellement des migrants, ils parlent des réfugiés. Le réfugié est devenu presque le terme générique pour parler des migrations, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des réfugiés. Certains sont demandeurs d'asile, donc candidats au statut de réfugiés, mais ne sont pas réfugiés. Beaucoup ne sont pas non plus des gens qui sont dans cette perspective de fuir leur pays, mais ils sont venus pour essayer de trouver du travail. Mais dans l'ensemble, on parle des réfugiés. Bon. Alors qu'avant, on ne parlait pas du tout des réfugiés. Moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était un sujet minuscule, les réfugiés. Et on n'en parlait même pas parce que 90% obtenaient le statut. Donc, il n'y avait aucun débat à propos des réfugiés, si j'ose dire. On parlait des migrants ou des travailleurs étrangers.
Oui, mais on parle de réfugiés parce que précisément, c'est ce qu'ils font systématiquement. Je crois quand ils arrivent, on n'a pas encore
aujourd'hui,
parlé du
oui.
fameux accord de Dublin. Enfin,
absolument.
Donc, ils arrivent, on leur conseille. On leur conseille, ou en tout cas,
fait.
Ils savent
mais eux-mêmes
qu'il faut demander l'asile.
Oui, parce qu'en fait, on est en Europe dans une configuration qui est unique au monde. C'est-à-dire qu'on a fermé le travail salarié depuis 1974. Donc, on a presque 50 ans de fermeture de la frontière aux migrations économiques, sauf aux très qualifiés, etc. Ce qui fait que le seul moyen d'entrer sans papier, mais légalement, c'est de demander l'asile, de se constituer demandeur d'asile à la frontière. On a peu de chances de l'obtenir de cette manière, mais beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment tous raison de demander l'asile compte tenu de leur profil, de leur histoire, essayent, politisent un peu leur profil pour entrer dans la catégorie de réfugiés parce qu'ils ne peuvent pas entrer autrement comme migrants travailleurs. Donc c'est ça le drame, si j'ose dire, du système, parce que ça bloque l'ensemble du tri que l'on devrait faire pour déterminer si les gens correspondent ou pas au statut de réfugié. Donc ça engorge bien sûr tout ce qui est détermination de l'asile. Ça bloque tout le système parce que si les gens correspondaient soit au profil de travailleurs entrant légalement, soit au profil de réfugiés, ce qui était le cas avant 1974, on aurait beaucoup plus de facilité à gérer les migrations.
Oui.
Aujourd'hui, on a des flux mixtes, c'est flou. Oui. C'est flou.
Quels sont les pays où on rentre encore pour des raisons de travail? Vous dites autrefois, c'était...
Aujourd'hui, les Européens qui ont la liberté de circulation, ceux qui entrent dans le cas d'accords bilatéraux de travail, l'Italie a beaucoup d'accords bilatéraux, notamment avec les Albanais. Il n'y a plus d'Albanais qui arrivent sur des bateaux de fortune en Italie parce que l'Italie a conclu des accords de travail avec les Albanais. En Suisse aussi, on a des accords bilatéraux. L'Allemagne a une migration sélective, de même que le Royaume-Uni. Pour des
d'autres pays
plutôt très qualifiés, voilà.
Et d'autres pays font entrer les migrants pour le travail encore aujourd'hui?
Dans le monde, oui, le Golfe a essentiellement une migration de travail.
Golfe, oui.
C'est la troisième destination migratoire au monde. Le Canada, une migration avec des permis à points très sélectifs, comme l'Australie, par exemple. En Europe, pour des raisons politiques, on a décidé de suspendre l'immigration de travail salarié, ce qui rend très difficile la gestion d'une politique migratoire européenne rationnelle, si j'ose dire.
Ce qui fait que, David Lagarde, vous parlez plutôt d'une crise de l'accueil que d'une crise des migrations. Je l'ai lu quelque part.
Oui, en tout cas pour l'Europe, c'est sûr que si on décentre un petit peu le regard et qu'on regarde les centaines de milliers de réfugiés qui ont été accueillis par la Jordanie, par le Liban. Il y a 3,5 millions de réfugiés syriens en Turquie. C'est un peu usurpé de parler de crise migratoire en Europe. Et effectivement, il y a un fait qui illustre bien en fait cette crise de l'accueil en Europe, c'est les difficultés que les gouvernants européens ont à se mettre d'accord pour se répartir quelques dizaines de milliers de réfugiés qui croupissent dans des hotspots en Grèce depuis des mois, des années. Et voilà, on n'arrive pas à trouver d'accord pour offrir des conditions d'accueil et d'installation dignes à ces personnes sur le territoire européen. Et ça nous renvoie à la discussion de tout à l'heure, d'ailleurs, sur la gouvernance mondiale des migrations. Ce genre de blocage n'est pas très encourageant en fait sur la possibilité, je pense, à l'échelle mondiale, de réussir à se mettre d'accord pour trouver des
conditions. On peine un peu à imposer. On peine un peu à s'entendre entre les 27 États. C'est très clair, hein, notamment sur l'accueil des réfugiés syriens, mais irakiens, la Corne de l'Afrique, cela est valable. Et c'est de ça justement que je voudrais que l'on parle avec vous deux pour conclure notre échange. Il y a l'espace Schengen.
Oui, bien sûr, oui.
On peut y revenir, Catherine Vitol, on le rappelle, libre circulation. Et bien sûr, sans doute depuis aussi, 2011, un peu la crise syrienne.
La crise syrienne, il y a eu beaucoup de choses. L'Europe s'est construite par une addition de décisions successives, notamment les accords de Schengen de 85. Donc,
oui, ils ont 35 ans aujourd'hui.
Voilà, faut pas l'oublier. Donc, on a libre circulation intérieure des Européens, renforcement des frontières externes pour les non-Européens. On a les accords de Dublin, dont on a beaucoup parlé, sur l'asile, avec le fameux système de Dublin 2, One Stop, One Shop. C'est là où vous êtes arrivé que automatiquement, vous devez être traité pour la demande d'asile, ce qui marche très mal, parce que les gens ne veulent pas tous être traités comme demandeurs d'asile s'ils arrivent en Grèce, sur le sol grec ou à Malte ou dans quelque autre endroit du sud de l'Europe, parce qu'ils ont souvent de la famille en Suède ou ailleurs, etc. Donc ça marche très très mal. On a également parmi les autres instruments importants de la politique européenne des migrations, toute une série d'instruments européens comme Frontex, qui a été créé en 2004 pour physiquement contrôler les frontières extérieures de l'Europe, notamment en Méditerranée, donc dont le budget a été multiplié par 17 depuis sa création. On a quelques autres, un système informatisé d'échange d'informations entre pays européens où on mêle les sans-papiers, les délinquants et les déboutés du droit d'asile. Donc il y a toute une série d'instruments, mais le résultat, c'est très peu de solidarité. La crise de 2015, c'est la crise de l'accueil, c'est la crise de solidarité entre les pays européens. Je rappelle que principe de solidarité est inscrit dans le traité de Lisbonne et que l'Europe a été très faible pour... Elle n'a pas sanctionné les pays comme la Hongrie, la Pologne et quelques autres qui ont dit « nous, on ne veut pas de réfugiés. Si on prend des réfugiés, on va prendre que des réfugiés chrétiens, mais pas d'autres. » Et alors qu'ils reçoivent des fonds structurels européens. Il y a eu des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, mais qui n'ont eu aucun effet sur la décision de ces pays de ne pas accueillir de réfugiés.
Je voudrais qu'on parle, alors on a passé moins de temps sur ces régions, Dieu sait pourtant si c'est important, d'Amérique centrale quand même rapidement.
Tout à fait.
Encore avec vous Catherine Vitold-Vendel si vous voulez bien.
Tout à fait.
Amérique centrale, Mexique, Caraïbes aussi, vous avez parlé du Venezuela. Oui. Ce sont des pays d'abord qui ont été touchés par des accidents environnementaux.
Environnementaux,
très grave.
Beaucoup
très
de tremblements de terre. Alors en gros, il y a deux types de migration en Amérique latine. Il y a une migration qui essaye de se diriger vers les États-Unis. C'est l'Amérique centrale et le Mexique, donc vers les États-Unis. Et puis à partir du moment où on est vraiment en Amérique du Sud, la migration est très régionalisée à l'intérieur de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, on a à la fois mondialisation et régionalisation des migrations, mais l'Amérique du Sud est la région où il y a le plus de régionalisation des flux. La plupart des gens, des migrants en Amérique du Sud viennent d'Amérique du Sud. Et ça, c'est vrai aussi un peu pour l'Europe. Maintenant, de plus en plus, 30% des migrants en Europe sont des Européens, ce qu'on oublie souvent. Mais c'est vrai pour l'Afrique. La plupart des migrants en Afrique sont des Africains, etc. C'est vrai pour le monde entier, en Asie du Sud-Est aussi. Mais c'est encore plus vrai pour l'Amérique latine, alors qu'autrefois, c'était des Européens qui ont migré en Amérique latine et en Amérique du Sud particulièrement. C'était des Italiens, des Allemands, et oui, etc. Et maintenant, il n'y en a quasiment plus qui vont par là. Et un petit peu des Espagnols et des Portugais après les crises de 2008, mais peu. Et donc, on a une migration qui se dirige vers les États-Unis, Amérique centrale, Mexique. Le Mexique est un pays de transit aujourd'hui. Il y a moins de Mexicains qui vont vers les États-Unis que de Mexicains qui retournent au Mexique. Mais l'essentiel des flux au Mexique, ce sont des gens d'Amérique centrale qui ont été très appauvris par la crise du café, pour laquelle on pourra revenir tout à l'heure, et donc qui migrent vers les États-Unis
Honduras, avec situations,
voilà,
Salvador.
Aussi dramatiques, voilà, exactement, des situations Équateur aussi, des situations aussi dramatiques que celles presque qu'on voit en Méditerranée. Les gens peuvent être abattus par des cartels de la drogue pendant leur voyage, etc. Les femmes sont systématiquement violées et il faut payer très cher le passage de la frontière vers les États-Unis. Donc c'est aussi dramatique. On en parle moins parce que c'est moins proche, mais c'est dramatique. Et en Amérique du Sud, on a une migration surtout des pays andins vers l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, par exemple, vers les pays plus prospères ou plus calmes.
L'Argentine qui ne se porte pas si bien pourtant sur le plan
économique.
Non,
mais il y a beaucoup de migrations péruviennes quand même, en Argentine par exemple, et au Chili aussi.
Donc des migrants qui ne sont pas très bien traités.
Très mal traités.
Sur ces territoires-là. Un mot, David Lagarde, sur toutes ces populations, ces mouvements, notamment alors, sur les continents africains aussi, ou Proche-Moyen-Orient.
Non, oui, je reviendrai juste sur ce qu'on disait sur l'Europe. Effectivement, la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen a engendré aussi vraiment un durcissement très très fort des politiques mises en place par l'Union européenne et puis un renforcement incroyable du rôle de Frontex qui a été d'ailleurs épinglé cette semaine par la Cour des comptes européenne pour en fait l'inefficacité finalement de ses actions au regard des budgets qui lui sont alloués puisque pour la période 2021-2027
budget considérable, énorme, vous l'avez dit d'ailleurs.
C'est de 11 milliards.
Multiplié par 6, je crois.
Pour cette période. Et puis, toujours plus d'externalisation aussi, avec, par exemple, le Danemark qui vient de voter une loi là pour transférer les demandeurs d'asile hors d'Europe, le temps que leur demande d'asile soit étudiée. Donc, on voit fleurir un peu ça et là dans les discours ce genre d'idées. Qui tend vers une sous-traitance toujours plus en amont des frontières de l'Union européenne. Et puis sur le continent américain aussi, l'actualité nous rappelle que la situation est tendue aussi en Amérique avec un afflux un petit peu de migrants là depuis l'arrivée de Joe Biden à la tête des États-Unis et qui créent des situations difficiles à la frontière
mexicaine États-Unis, à la fois la plus contrôlée et la plus traversée, dit-on, du monde encore aujourd'hui. Un tout dernier mot sur l'épidémie, bien sûr, il fallait en dire un mot, mais il nous reste très peu de temps, juste pour constater quand même que ça a mis en cette épidémie a mis en avant tout ce que vous êtes en train de nous dire. Les transferts de fonds sont devenus plus difficiles.
Tout à fait.
Les pays européens ont manqué de main-d'œuvre, notamment dans l'échange.
Bien sûr. Pas seulement dans l'échange, mais aussi dans des quantités de secteurs. L'aide aux personnes âgées, entre autres. Quelques autres métiers où ils sont nombreux.
Où ils sont très nombreux. Voilà, ça a bousculé un petit peu et ça a mis un peu en
c'était
avant.
C'était un peu une prise de conscience dans certains pays, dans certaines régions. Par exemple, en Espagne, c'était la période dans le grand confinement de l'année dernière, le ramassage des fraises. C'est des femmes marocaines qui ramassent les fraises en général. Eh bien, elles venaient plus. Donc, il a fallu, les fraises, ça, c'est très saisonnier. Donc, les Espagnols se mettent à ramasser les fraises. Et puis, dans le sud-est de la France, il y avait aussi des Marocains qui travaillaient dans les serres et ils ont essayé de faire travailler des étudiants, etc. Mais ils se sont aperçus que aussi bien les étudiants que les voisins étaient incapables d'abattre le travail que faisaient les saisonniers marocains. En Allemagne, c'était la récolte des asperges pendant le printemps 2020. Ben, ceux qui récoltaient les asperges, c'était les Ukrainiens, plus d'Ukrainiens. Donc, on a eu comme ça cette prise de conscience. Voilà.
Et puis, quand même, je vous coupe parce qu'on va conclure qu'il reste beaucoup à faire. Et là, je reviens sur cette fameuse gouvernance mondiale que vous appelez de vos voeux, mais qui avance un petit peu.
Qui avance parce que.
Mais vous n'êtes pas si optimiste que ça.
Tout à fait. Ben, il y a un savoir qui était accumulé avec les forums annuels migration et développement qui se réunissent dans le monde entier. Donc ça, c'est déjà un phénomène important. Il y a une prise de conscience qu'il y a un désordre considérable dans la gestion des migrations
qu'il faut
à l'échelle mondiale et qu'il faut le corriger.
Tout dernier mot pour vous, David Lagarde. On termine et on va sortir sur une belle musique. David Lagarde, en conclusion.
Non, oui, justement, la crise de la Covid, ça va être quelle conséquence est-ce que ça va avoir sur les migrations? Je pense qu'effectivement, là, il y a le sujet pour une belle émission. Est-ce que ça va être toujours plus d'inégalités face à l'accès à la mobilité? On ne sait pas, notamment avec des pays qui n'ont pas encore commencé à vacciner. Donc voilà, il y a tout ça qui devrait être observé dans les mois à venir.
Eh bien, c'est à suivre. Merci infiniment à tous les deux. Donc, Catherine Pitol de Vinden, qui vient de publier, je l'ai dit, la 6e édition de l'Atlas des migrations. C'est chez Autrement, qui publie un très grand nombre d'atlas et avec succès. Et avec vous l'avez rédigé avec votre cartographe, géographe, Madeleine Benoît-Guyot. Il y a beaucoup de cartes tout à fait passionnantes et de graphiques aussi. Et David Lagarde, dont on peut retrouver la thèse. Elle est publiée, David Lagarde, très vite? On peut on peut trouver votre thèse en ligne ou se la procurer.
Oui, bien sûr.
On va donner les références.
Très facilement en ligne.
Ouais, et des articles de vous dans Géoconfluence également en ligne. Merci encore à tous les deux et à notre petite équipe.
Tout près de rien. Quelques traces qui s'effacent. Les clandestins glissent vers la lumière. À mourir pour mourir, autant mourir debout.
Chanson qui était écrite pour Médecins sans frontières, dont on salue au passage les 50 ans cette semaine et le beau travail qu'ils font dans beaucoup de pays en développement notamment. Merci à tous, très très bonne soirée. Merci bien sûr à notre équipe Thomas Jost qui réalise l'émission en compagnie d'Olivier Arnet ce soir. Et bien sûr Sandrine Chaperon, Jeanne Delcroix, Léane Calumposo, notre stagiaire fidèle au poste et qui nourrissent le mieux possible notre site. Très très bonne soirée, à jeudi prochain.
Je reste avec toi, ne change pas, c'est comme ça.